Soir Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. La Cour pénale internationale, la CPI, rend son verdict aujourd'hui à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique. L'ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre a été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour les crimes de guerre commis par sa milice. Le mouvement de libération du Congo, MLC, entre octobre 2002 et mars 2003. Jean-Pierre Bemba, âgé de 55 ans, a interjeté appel en juin 2016 du jugement de la CPI à l'issue d'un procès qui a duré 6 ans. Mise en perspective, Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba sera fixé ce vendredi 8 juin à partir de 16h heure de Kinshasa par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Maître Aimé Kilolo, l'ancien coordonnateur de l'équipe de défense du leader du mouvement de libération du Congo, présente 3 scénarios probables.
Première possibilité, décision d'acquittement pur et simple. Deuxième possibilité, un acquittement partiel. Dans cette hypothèse, ça veut dire que la durée de la peine pourrait être sensiblement diminuée. Et si cela correspond à une peine qui ne dépasse pas 10 ans d'emprisonnement, ceci pourrait entraîner évidemment sa remise en liberté, le cas échéant, sous condition de rester peut-être en Belgique. L'autre possibilité qui existe, c'est évidemment la possibilité de confirmer la décision qui avait déjà été prise en première instance. Et dans ces conditions-là, il ne pourrait être libéré qu'à concurrence de 2/3, c'est-à-dire d'ici environ 2 ans ou 3.
À Kinshasa, la plupart des personnes interrogées par VOA Afrique espèrent la libération de Jean-Pierre Bemba. Ce point de vue est également celui de son parti, le Mouvement de Libération du Congo, dont le secrétaire général adjoint Fidel Babala s'est montré très optimiste. Alors que les victimes centrafricaines de ces éléments attendent plutôt la confirmation de ces charges, Jean-Pierre Bemba Gombo a également reçu le soutien de plusieurs leaders de l'opposition congolaise, notamment Adolphe Muzito, candidat annoncé à la prochaine présidentielle qu'il a rencontré cette semaine à la Cour pénale internationale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans, a été renvoyé aujourd'hui au 27 juillet. La question des honoraires des avocats de M. Zuma sera à l'origine de ce report. L'ancien président veut qu'il soit pris en charge par l'État sud-africain. M. Zuma, âgé de 76 ans, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales à l'occasion d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, Jacob Zuma était ministre provincial, puis vice-président de l'Afrique du Sud. Et débat en Afrique du Sud autour de la question ultra sensible de la réforme de la terre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est engagé à accélérer la réforme de la terre pour réparer la grave injustice historique imposée à la majorité noire pendant l'apartheid. Un enjeu crucial à l'approche des élections générales de 2019. Des agriculteurs sud-africains blancs craignent que leur pays ne suive la voie du Zimbabwe où des milliers de fermiers blancs avaient été expulsés manu militari au profit de noirs. Au début des années 2000, lancé par le président Robert Mugabe, cette réforme a plongé son pays dans une profonde crise économique. Burundi maintenant, après la surprise créée par la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter en 2020, l'opposition scrute l'avenir. Le scepticisme est cependant le sentiment le mieux partagé. C'est l'exemple de François Nyamoya du MSD. C'est un opposant. Il est en exil au Rwanda et il conseille la prudence.
Beaucoup de prudence parce que le personnage, il est habitué à changer de casquette et de ne pas tenir parole. D'autant plus que c'est assez surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a mis beaucoup d'énergie, malgré toutes les pressions de part et d'autre, pour modifier la Constitution. Et quand vous lisez la Constitution très en détail, ce n'est pas une Constitution qui est faite pour un État, c'est une Constitution taillée pour un individu, pour une personne. C'est une constitution faite pour Nkurunziza. Alors, la question est celle-là. Comment se fait-il que quelqu'un qui a mis autant d'énergie pour modifier une constitution taillée à sa mesure, subitement, il dit « je ne me représenterai plus ». C'est surprenant.
François Nyamoya, opposant burundais. Contrôle strict à Bangui, en République centrafricaine, pour tenter d'empêcher Ebola de passer. L'épidémie de fièvre hémorragique a déjà tué 27 personnes en RDC. Depuis un mois, un seul cas suspect a été identifié dans l'est de la Centrafrique, mais les analyses se sont révélées négatives. Calquées sur le précédent plan de lutte contre une épidémie de choléra de 2016, la réponse centrafricaine comprend le contrôle de la température des voyageurs à l'aéroport et aux 7 différents débarcadères de Bangui. Et pour prévenir la contagion par ce truchement, l'OMS a mis en place une vaste campagne de communication passant par les médias locaux et les radios associatives. Libéria maintenant, le président Weah veut faire la différence à l'extérieur pour financer son programme en faveur des pauvres. L'ex-star du football frappe à toutes les portes de son dernier voyage à Bruxelles. Le président libérien George Weah est revenu avec en poche une nouvelle aide budgétaire européenne dans les 3 prochaines années. George Weah s'apprête à construire plus de 750 km de routes asphaltées sur quelques 11 000 km au total, soit plus qu'en 170 ans d'histoire du Libéria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Jean-Roger Bion à ce micro, nous émettons de Washington. 38 civils ont été tués dans la province d'Idlib en Syrie lors de raids nocturnes attribués à l'aviation de la Russie, alliée du régime syrien, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les raids ont frappé tard jeudi soir à la localité de Zardana, contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans cette province du nord-ouest du pays en guerre. Selon l'ONG, il y a eu 60 blessés. Les dirigeants des plus grandes démocraties industrialisées se rencontrent aujourd'hui et demain au Québec, au Canada, alors que le commerce et d'autres questions sont source de tensions entre Washington et ses alliés. Le sommet du G7 risque d'être éclipsé par une autre réunion historique la semaine prochaine à Singapour. Cependant, le sommet du G7 ne sera probablement pas moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership intercontinental des États-Unis. Un avant-goût du sommet avec vous, Gaby Dorsil.
Oubliez les formes et les sourires. Un gouffre grandissant se précise alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada.
Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7. Cela ne fait aucun doute.
Selon Jacob Kierkegaard, chercheur au Peterson Institute for International Economics, la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accru des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale.
Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces automobiles, c'est une recette, pas pour une guerre commerciale mondiale, mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde.
Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a défendu les actions de l'administration et a qualifié le désaccord de querelle familiale.
Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale, indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main-d'œuvre.
Mais certains économistes disent que le résultat de la politique « l'Amérique d'abord » sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada, hôte du sommet de cette année, lance la première salve. Bill Morneau est le ministre canadien des Finances.
Je veux dire, cela va causer des pertes d'emplois pour les Américains, des pertes d'emplois pour les Canadiens, et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue.
Les Canadiens et les Européens ont menacé de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine.
L'état d'urgence instauré en Turquie après le putsch manqué du 15 juillet 2016 pourrait être levé après les élections présidentielles et législatives du 24 juin, a déclaré hier le président Recep Tayyip Erdogan. L'état d'urgence a été instauré en Turquie le 20 juillet 2016, quelques jours après une tentative de coup d'état imputée par les autorités au prédicateur Fethullah Gulen et ses partisans. VOA Afrique Midi, première édition, Jean-Roger Bion. Le prochain, ce sera dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.